Une nouvelle émission spéciale débute sur les ondes de Radio Primitive. Et à nouveau, nous sommes dans la maison commune du Chemin Vert. Encore, me direz-vous ? Évidemment. Croyez-vous que 2 heures d'émission, puisqu'aujourd'hui c'est notre 3e rendez-vous à la maison commune du Chemin Vert, bref, croyez-vous que 2 heures d'émission allaient suffire à faire le tour des propositions de la maison commune? Que nenni! 3e rendez-vous, donc, et sachez même qu'il y en aura un 4e. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'ateliers de pratique artistique amateur, des itinéraires d'éducation artistique et culturelle, mais aussi du cellier. Vaste programme. Durant la 2e partie de cette émission, nous serons en compagnie du collectif Totterwinkel. Le collectif Totterwinkel a en effet dirigé un atelier à destination du jeune public du 20 au 24 février dernier dans le gymnase, tout à fait remarquable soit dit en passant, de la maison commune du Chemin Vert. Vie de chaise. Voici le nom de l'atelier. Atelier d'objets et de danse, mais vous en saurez plus bien assez tôt. Et pour débuter cette émission, cette première partie, donc, nous avons été reçus par Vincent Marcoux, responsable de la maison commune du Chemin Vert, directeur artistique du cellier et responsable du service de création artistique et du développement des pratiques amateurs et professionnelles à la direction de la culture et du patrimoine de la ville de Reims. Bonjour Vincent Marcoux, merci de nous recevoir à nouveau à la Maison commune du Chemin Vert pour nous parler aujourd'hui de l'itinéraire de la scène à l'image découverte de 2 lieux culturels.
Bonjour.
Avant de s'intéresser à cet itinéraire, il va falloir, si nous avons des auditeurs et auditrices étourdis qui ont oublié d'écouter l'émission consacrée aux itinéraires, rappeler brièvement ce qu'est un itinéraire.
Alors un itinéraire, en fait, c'est un concept qui est à l'initiative de 2 de mes collègues de la direction de la culture, la ville de Reims, Marion Grange et Aurélie Guyot, qui ont structuré en fait ce qu'on appelle l'EAC, l'éducation artistique et culturelle, et qui propose, je crois, une 60aine maintenant d'itinéraires.
58.
Ah ben, je vais loin. L'idée qui est derrière ces itinéraires, c'est que tous les enfants rémois d'une tranche d'âge doivent tous avoir été mis en contact un jour d'une action culturelle, d'un programme d'action culturelle. Et donc, pour ce faire, un itinéraire se construit sur 3 rendez-vous. Un rendez-vous d'approche, de sensibilisation. Un rendez-vous qui est plutôt un rendez-vous de pratique de spectateur. Spectateur, visiteur, quand il s'agit d'une expo, d'un musée, etc. D'une pratique, oui, de spectateur. Et puis un rendez-vous de pratique, c'est-à-dire on va fabriquer quelque chose. Tout ça autour d'une thématique, d'un établissement, d'un projet culturel, etc. Et ça se dimensionne à loisir, ça se modifie à loisir, ça se duplique à loisir, et chacun en fonction de son établissement, de ses opportunités de programmation, etc. Et de fait, ces 58 itinéraires viennent de tous les établissements culturels que compte la ville. Et la ville de Reims est très 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 bien achalandée en établissements culturels, donc il y a des itinéraires à la Comédie de Reims, à l'Opéra, au Manège, c'est-à-dire toutes les grosses institutions, Césarée, évidemment, je commence à en parler, et du coup forcément je vais en oublier, Syntex, mais aussi les structures municipales, comme les musées, comme les bibliothèques, enfin la bibliothèque municipale avec ses médiathèques et ses bibliothèques de quartier, comme les établissements de la direction de la culture, comme la Maison commune du Chemin Vert ou le Cellier, la Fileuse aussi à un moment donné, donc voilà. Toute cette multitude, ce foisonnement de la vie culturelle propose ces 58 itinéraires sur le mode de 3 rendez-vous qui permettent à des enfants d'avoir une immersion, encore une fois, ou dans une discipline, ou dans une exposition, enfin dans un projet culturel, par le biais de ces trois rendez-vous.
Émission spéciale, Radio Primitive est à la Maison commune du Chemin Vert, entretien avec Vincent Marcoux.
Les itinéraires sont proposés par catégorie. Celui dont on parle aujourd'hui s'inscrit dans les arts visuels, donc de la scène à l'image, découverte de deux lieux culturels. Première question, quels sont les deux lieux culturels en question, même si je pense qu'on a évidemment déjà la réponse.
Bah, je suis la réponse. Alors en fait, ce qui nous a amusés, d'abord on accueille énormément d'enfants à la Maison commune du Chemin Vert. Ça c'était le constat de départ. Et je ne savais pas en fait que je faisais des EAC. Bon voilà, pour moi, je m'engageais à faire ce que je fais depuis toujours, à savoir rendre accessible la culture pour tout le monde, et qui plus est dans un quartier excentré et dans un quartier populaire. Et donc voilà, j'étais exactement dans la droite lignée de la culture pour tous, la grande philosophie de la politique culturelle à la française. Mais par exemple, la Ciné-Goûtée, c'est déjà de l'EAC. Un atelier de pratique artistique en amateur, comme il y a eu quelques illustrations sur votre antenne dernièrement, c'est déjà un EAC. Pour moi, EAC, c'était forcément dans le temps scolaire. Donc c'est là que mes collègues m'ont dit « mais pas du tout ». Donc voilà, partant du constat qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent chez nous, il y a autant dire des générations de gosses qui sont ici dans ce bâtiment depuis maintenant 100 ans. D'ailleurs, un établissement qui avait été conçu dans l'idée même de l'éducation populaire, donc... Donc voilà, tout ça mis bout à bout, on a eu envie de travailler, de participer à ces itinéraires, quand j'ai compris en fait de quoi il s'agissait, et que finalement ça n'allait faire que redéfinir, redimensionner ce qu'on faisait déjà, sans avoir l'impression de faire des choses sérieuses. Et donc en fait, de la scène à l'image, c'est très simple. Ce théâtre du Chemin Vert, en fait, enfin, il s'appelle maintenant le théâtre du Chemin Vert, mais dans cette maison commune, à l'origine, en 1924, il y avait une salle des fêtes qui comptait 500 places. Et cette salle des fêtes, elle avait été imaginée par les bienfaiteurs de la Cité-Jardin. D'abord, pour qu'il y ait un auditorium à Reims. Reims était en ruine. En 1924, c'était un peu les débuts d'un nouveau début. Donc ça permettait d'avoir une salle de concert, parce qu'il n'y avait plus rien. Mais bon, en tous les cas, plus du tout de salle de spectacle. Ça permettait aussi d'avoir une scène pour faire des spectacles, notamment de théâtre amateur, pour occuper et évidemment élever un peu spirituellement les ouvriers qui habitaient cette cité jardin. Et puis évidemment, c'était la grande mode de l'époque. C'était aussi un cinéma de quartier. Donc en fait, ce théâtre du Chemin Vert était déjà polyvalent. Donc du coup, de la scène à l'image, là pour le coup, c'est très simple à comprendre. D'ailleurs, quand on vient dans ce théâtre du Chemin Vert, on voit très vite qu'il a une architecture typique des cinémas des années 20. Il y a un balcon, un parterre, une pente publique qui monte légèrement vers la scène. On est vraiment dans la caricature presque du cinéma des années 20, du cinéma de quartier. Après, l'idée c'est qu'il y a aussi un parcours, et donc si on voulait aller un peu plus loin dans l'image, il fallait chercher un vrai alibi autour de l'image, et que projeter une image animée, on était presque dans le trop facile dans ce cinéma de quartier. Donc c'est là où arrive le cellier. Parce qu'en fait au cellier, et on va peut-être en dire un peu plus sur le cellier après, en ce qui concerne le cellier, en fait, donc au cellier il y a plusieurs espaces culturels, notamment des espaces d'exposition. Et en fait les expositions du cellier suivent une ligne directive artistique qui nous promène entre quatre expositions sur une saison culturelle complète. Et donc l'un de ces rendez-vous, qui est en fait une des grandes expositions, enfin, pour faire simple, on a des petites expos et des grandes expos, ça ne veut pas dire qu'il y a des expos pour les petits et d'autres pour les grands, ou des expos pas terribles, des expos trop top, c'est pas ça, c'est qu'en fait il y a des expos petit format, des expos grand format. Donc une des expos grand format, celle qui accompagne le printemps et l'été, travaille beaucoup autour de l'image, puisqu'on a une collaboration étroite, encore pour cette année, avec le musée du jeu de paume, le musée de l'image, le musée du jeu de paume de Paris. Donc voilà, du coup, ça permettait cet itinéraire qui invite de la scène à l'image, en fait, se décompose de la manière suivante. Et là, on va retrouver nos fameux trois rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est évidemment la visite de ce théâtre du Chemin Vert, puisqu'après tout, c'est quand même un théâtre. Et évidemment, c'est assez drôle d'expliquer à des enfants, puisque ces itinéraires s'adressent à des enfants, comment fonctionne un théâtre et comment fonctionne un cinéma. Et du coup, ben, tout est bon pour donner le vocabulaire du théâtre. C'est quoi la cour, c'est quoi le jardin, pourquoi on dit cour, pourquoi on dit jardin, comment on fait pour fermer un rideau de scène, comment on fait pour se faire applaudir, parce qu'il faut que tout ça soit ludique. Et le cinéma, ouais d'accord, il faut un écran, mais où est l'écran? Tiens, si on appuie sur le bouton, on le descend, puis on le remonte. Enfin, voilà. Donc il y a toute une appropriation de ce théâtre du chemin vert, qui est en fait un théâtre assez classique, avec des cintres, avec des coulisses, avec des loges. Mais en même temps, pas tout à fait un théâtre. On n'est pas à l'opéra, on n'est pas à la comédie, il n'y a pas de dessous de scène, la cage de scène est petite. Alors évidemment, les enfants n'ont pas cette appréhension-là, mais quand même, on est dans un théâtre, comme, enfin, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis, une fois qu'on a découvert le théâtre à petite échelle, et ce que c'est, pourquoi on n'a pas le droit de porter de verre, pourquoi on dit merde avant d'aller pour souhaiter bonne chance à une première, etc. Ça, c'est maîtrisé. Et là-dessus, on peut passer au deuxième volet. Deuxième volet, découverte de l'image, mais découverte de l'image à travers un autre lieu culturel. Donc là, on emmène tout le monde au Cellier. On fait une visite rapide, non pas du Cellier, mais de la salle de théâtre du Cellier. Bon, il y a plusieurs salles de spectacle, mais il y en a une qui est vraiment théâtrale. Et là, on voit la différence entre un théâtre des années 20 et un théâtre contemporain. Le gradin n'est pas positionné de la même manière, le rapport scène-salle n'est pas le même, il n'y a pas les fresques sur les murs, etc., etc. Et puis très vite on descend dans l'exposition où là on fait une visite commentée de l'exposition. L'année dernière par exemple, évidemment, on était sur une exposition totalement contemporaine avec beaucoup d'images interactives, de l'image virtuelle, des casques, etc. Donc bon, évidemment pour les gosses ça c'était top. Là cette année on sera sur des images un peu plus classiques, encore qu'il y a aussi de l'image animée, de la vidéo, donc ça permet quand même de travailler. Donc ça, c'est notre deuxième rendez-vous, dans un lieu qui n'a rien à voir. Et puis alors, au Cellier, en plus, évidemment, ce qui est assez drôle pour les enfants, c'est de leur expliquer que finalement, parfois, des lieux culturels sont construits pour faire de la culture, mais parfois, on va chercher des endroits qui n'ont rien à voir avec la choucroute culturelle et on l'amène, la choucroute, dans le lieu. Donc, en l'occurrence, ce Cellier, qui s'appelle le Cellier, c'est quelque part, il y a un truc avec la cave, voire le champagne, vu qu'on est à Reims. Et donc, on explique tout ça aux enfants. Et d'ailleurs, les salles d'exposition sont dans la cave. Mais ça aussi, on va le détailler un peu plus, dans deux minutes. Et donc voilà, ça c'est notre deuxième rendez-vous. Et puis le troisième rendez-vous, rappelez-vous, il faut qu'il y ait un peu de pratique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'amuse à faire de l'image. Et donc l'an dernier, je pense que cette année, nous renouvellerons l'expérience. L'année dernière, en fait, on a travaillé avec les artistes d'une asso qui s'appelle 23.03, qui font beaucoup, beaucoup d'actions culturelles, en plus de leur travail artistique. Et c'était assez beau parce qu'on a fait un atelier cyanotype dans les salles d'atelier du Cellier. C'est quoi le cyanotype? Eh ben, en fait, c'est finalement un peu l'ancêtre de la photo. C'est-à-dire, on explique aux enfants comment on arrive à projeter une image par l'exposition d'un papier photosensible. Et du coup, l'image se révèle après en passant dans un bain. Enfin, c'est assez magique parce que, alors on peut tout mettre, l'ombre portée d'une main, une feuille, etc. Mais du coup, on est presque dans l'archaïsme, en fait, de l'image portée sur le papier. Donc voilà, ça c'est la couleur et le goût de l'itinéraire de la scène à l'image que porte l'équipe de la Maison commune du chemin vert. Mais je devrais même dire l'équipe du service de création artistique, puisqu'en fait, soit je suis le directeur de la Maison commune du chemin vert, mais si je suis le responsable d'un service qui couvre trois établissements, cette maison des pratiques amateurs qui est la Maison commune du chemin vert, la fileuse qui est la friche artistique qui je crois est tout près de Radio Primitive, juste en dessous, qui est un lieu installé dans une ancienne usine où les artistes professionnels viennent fabriquer des œuvres. Pour faire facile, comme c'est une usine, on peut déborder, tacher, etc., faire de la poussière, c'est pas un drame, ça ce n'est pas facile. Et puis après, il y a ce troisième établissement qui s'appelle le Cellier, où là, on va diffuser des œuvres d'artistes locaux, beaucoup de compagnies, parce qu'on fait beaucoup de spectacles vivants, mais pas que. Et donc là, c'est un lieu qui est fait pour aider, appuyer, porter un peu plus loin la création artistique. C'est-à-dire que la ville aide, en fait, pour faire simple et pour faire un peu caricatural, souvent on se dit, bon, la ville, ok, d'accord, on va chercher une subvention. Mais la ville, c'est pas qu'une subvention, c'est aussi des gens qui peuvent renseigner, devenir des conseils. Je pense notamment à la directrice de la fileuse Elsa Bézori, qui est exactement dans cette veine-là. Moi, qui reçois des associations, des artistes, pour leur expliquer, je sais pas, moi, comment on monte une asso, comment on monte une soirée de spectacle, etc. On a des carrières passées dans ces domaines, donc on fait bénéficier de nos expériences. Il y a évidemment ces subventions qu'on va chercher, et puis il n'y a pas que ça. il y a aussi des lieux et du coup des compétences pour soit présenter un spectacle d'amateur au chemin vert, soit présenter un spectacle de pro au Cellier dans des conditions professionnelles. C'est-à-dire que ça permet d'aller encore plus loin dans l'acte de création. La création, c'est bien de l'aider, trouver des sous pour payer les salaires, mais si on ne propose pas de lieu pour jouer, il y a un moment donné, la création, ça va vite s'arrêter, cette affaire. Donc voilà, c'est sympa l'idée qui est derrière tout ça.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Primitive. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'itinéraire de la scène à l'image. Itinéraire qui nous emmène à la maison commune du Chemin Vert, mais aussi au Cellier.
On a eu beaucoup d'informations, de pré-informations sur le Cellier, mais on va revenir sur le Cellier, sur le pourquoi de son nom, par exemple, et l'historique de ce lieu qui est récent par rapport à Reims. Alors, pas l'historique du lieu avec sa vocation première, mais sa vocation actuelle.
Ah oui, j'avais un peu travaillé le teasing du Cellier. Alors, le Cellier, en fait, c'est ce qu'on appelle du patrimoine industriel. La ville de Reims, évidemment, s'est beaucoup développée avec la révolution industrielle dans la deuxième moitié du 19e siècle, et notamment beaucoup autour de l'agroalimentaire, et notamment autour du champagne. À ce moment-là, en fait, les maisons de champagne, fin 18e, celles qui s'installent à Reims, vont s'installer plutôt dans la Ferrie, là où on sait qu'il y a des grottes qu'elles le remèdent, ces fameuses crayères, et grosso modo, les négociants, en achetant les terrains au-dessus, savaient qu'en dessous, il y avait des caves, et il y avait quand même une grosse partie du travail qui était fait. Ça, on est plutôt fin 18e, début 19e, et puis après, tout ça, ça s'excite un peu, et surtout, à Reims, arrive le chemin de fer. Et évidemment, pour les maisons de champagne, en fait, le champagne s'est beaucoup, beaucoup développé, notamment à l'international, grâce au chemin de fer. Il suffit d'aller prendre le train et traverser Épernay, et on voit qu'il y a toutes les marques de champagne qui longent la voie ferrée, avec des noms qui font rêver. Il y a toutes les capitales internationales. Quand j'étais petit, ça me faisait beaucoup rêver. Et donc, en fait, à ce moment-là, dans Reims, autour de la gare, il y a énormément de maisons de champagne qui vont s'installer à proximité de la gare. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les ruinards, clicquot-pommeries qui s'installent à l'extérieur au 18e. On est vraiment dans les caves, tout ce qu'il y a autour. Maintenant, Casanova, alors c'était pas Casanova au départ, ça devait être Stuart, je crois, mais Castellane, bref, tout le monde s'installe dans ce coin-là parce qu'on est à une portée de charrette pour envoyer ses bouteilles à Moscou, enfin, je sais pas où, quoi, enfin, tous ces noms qui font rêver. Et donc, le Cellier, c'est exactement ça, c'est-à-dire la famille Moum arrive à Reims, donc ça, c'est en fait la vague aussi des négociants en vin blanc, mousseux, des bords du Rhin, qui étaient donc des Allemands, donc c'est pour ça qu'on a des noms, Etzig, Moum, j'en passais des meilleurs, qui peut être Tétinger, par exemple, qui vont chercher leurs origines de leur nom dans la culture allemande. Et donc, en fait, ce monsieur Moum s'installe et près de l'hôtel de ville, fait creuser des caves et construit... Alors, c'est tout un pâté de maisons à l'époque. C'est tout le pâté de maison, il reste qu'un tout petit bout du Cellier, puisqu'en fait la guerre est passée par là, et donc ça a bien mangé. Mais dans la deuxième moitié du 18e, c'est tout un pâté de maison, en fait c'est la maison historique des Champagnes Moum, qui depuis maintenant sont installées à deux pas du Nouvel Arena. Un autre établissement culturel, comme quoi le champagne et la culture, ça fait bon ménage. Donc voilà, là-dessus la guerre passe, et c'est en cela que ce bâtiment qui est devenu l'établissement Le Cellier, c'est en ça que en fait, ce bâtiment va avoir une histoire tout à fait croisée et très, imbriquée avec celle de la ville de Reims, puisqu'en fait, au gros du combat, quand la ville est presque évacuée de tous ses occupants et que les bombes tombent en permanence, alors, je ne sais plus quelle année, peut-être bien 17, enfin, je ne sais plus. Toujours est-il qu'en fait, grâce à la proximité entre ces bombes, tous les Rémois savent que la vie, le peu de vie qui est resté, s'est beaucoup développé dans les caves de champagne. Chaque grande maison de champagne a développé la vie, soit avec ses ouvriers. On sait qu'il y a des cours, il y a des instituts qui ont donné des cours dans les caves pour les enfants qui restaient là, etc. Bon, bref, il y a une vie qui s'est développée, il y a des apparts, les gens vivaient sous la terre. Et puis, à un moment donné, pour maintenir un pouvoir politique, il a bien fallu quand même un lieu. Et puis, ben, un lieu pour éviter qu'on se prenne une bombe sur la tête. Évidemment, une cave, c'est top. Donc, du coup, ce Célier-Moum a abrité le conseil municipal de la ville de Reims au gros du combat, grâce à sa proximité géographique. C'est de l'autre côté de la rue. Hein. On est rue de Mars, on est vraiment de l'autre côté de la rue. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu l'histoire. La ville est reconstruite, Moum est toujours là, puis après ça va changer de propriétaire, ça va être vendu, revendu, puis revendu. Ceux qui ont vendu à la ville en fait en 2000, je sais plus bien, peut-être bien 10 je crois, c'est en fait Clicquot qui cherche à vendre cet îlot, puisqu'en fait c'est assez gros, alors c'est plus tout le pâté de maison, mais ça va quand même jusque derrière. Et puis c'est très profond, puisqu'il y a quand même 3 étages de cave. Si on fait une petite visite radiophonique du cellier, il y a 3 étages de cave, un R0 qui correspond au niveau de la rue, presque au niveau de la rue. Il y a une petite nuance, mais à un moment donné, par exemple, cette grande porte ronde, alors c'est en ça qu'il est remarquable ce cellier, puisqu'il y a une façade qui est classée, qui est de la fin du 19e, on a une porte en rond, c'est-à-dire une porte en tonneau, en foudre, qui est surélevée avec avec des petites marches, et un quai de chargement, puisqu'en fait, arrivaient les charrettes tirées par les chevaux, et on chargeait les bouteilles, et les bouteilles partaient tout de suite à la gare, qui est franchement une encablure de sabots de cheval. Et donc, et ce qui fait que cette façade est très connue, notamment des touristes, si on lève la tête au-dessus de cette porte ronde, il y a 5 fresques absolument sublimes, qui en fait sont les 5 phases de l'élaboration du champagne, alors de la vigne à l'expédition de la bouteille de champagne. Donc là, on est vraiment dans cette idée d'expédition. Enfin, c'est ce que je disais au départ. Merci, le chemin de fer. Donc ça, c'est le cellier. On a un R0 et après, au-dessus, on a 2 étages. Donc en fait, c'est un bâtiment assez vaste et aussi dans le volume, assez volumineux. Et du coup, à ce moment-là, en 2010, c'est l'époque où les maisons de champagne dans le centre de Reims se vendent pour faire du foncier, pour faire des immeubles assez jolis, assez qualitatifs. Et donc, il y a beaucoup de maisons qui vont disparaître, en fait, notamment des grands boulevards, du boulevard Lundy, Lançon, tout ça, parce que les maisons, en fait, partent à l'extérieur. On fait des opérations immobilières, voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là, la ville, en fait, résiste à l'idée même que ce patrimoine industriel, vraiment en cœur de ville, ce qui est assez étonnant, c'est vendu évidemment parce que c'est plus du tout comment balader des camions d'expédition en plein milieu du centre-ville, ça paraît dingue, alors que maintenant on est en train de piétoniser, évidemment. Donc du coup, c'est l'idée aussi de sauver du patrimoine industriel dans Reims. Après, on en fait quoi? Alors on en fait quoi? En fait, il faut aller chercher l'histoire d'un autre bâtiment dans Reims qui à ce moment-là va être sauvé pour retrouver sa vocation première. C'est le moment en fait où l'ancien collège jésuite, qui était devenu un espèce d'endroit qui était passé pour les anciens et moi, par un hospice, c'est ce qu'on appelait museux, pour les gens, les nécessiteux, les pas de l'époque. Il y avait d'ailleurs des bains-douches construits quand même dans la cour, qui ont été détruits pour installer Sciences Po. Et puis après ça, ce bâtiment, évidemment, les EHPAD ont été construits dans les années 70, moi je ne l'ai jamais connu comme établissement pour personnes âgées. Et donc c'est devenu finalement, au cours des années 80-90, un lieu culturel, mais un peu en agglomérant des initiatives. La première, je crois, dans l'histoire, c'était le planétarium, a suivi derrière l'installation du premier Centre dramatique national de Reims, qui était dirigé par Jean-Pierre Miquel. Puis juste derrière, on est en pleine décentralisation des années 80, on installe le FRAC, le Fonds régional de Champagne-Ardenne. Et puis après, il va y avoir des salles d'exposition et puis des salles d'ateliers. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans cet ancien collège jésuite, au moment même où il y a l'opportunité pour la ville d'y installer une grande école, Sciences Po. C'est-à-dire, non seulement on va sauver un des rares bâtiments qui n'a pas été détruit à la guerre, et on va lui redonner une mission qui était finalement sa mission d'origine, et puis ça va permettre de dynamiser la ville puisqu'on va avoir un apport d'étudiants, etc. Et donc du coup, à ce moment-là, le problème, c'est qu'en fait, si on fait ça, évidemment, on qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qui est culturel installé à l'intérieur? Donc le planétarium, ben, on connaît le nouveau planétarium et qui est absolument génial, encore plus génial que celui d'avant. Et puis du coup, à ce moment-là, la ville fait une préemption sur le bâtiment actuel du Cellier. Au moment d'ailleurs où la ville va récupérer ce bâtiment de la maison commune du chemin vert, puisque les maisons de quartier vont quitter la maison commune, et du coup ça va faire tout un tas d'établissements. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'est aussi projeté le projet de la friche artistique de la Fileuse. Et donc on est vraiment dans les années 2010, et puis ça se met en place tout ça autour de 2012. Moi je suis arrivé ici en 2012, alors ici c'est la maison commune. Le Cellier est inauguré en 2014 et je crois que la Fileuse a été inaugurée à l'automne 2012. Donc voilà, donc on est, c'est finalement le paysage culturel qu'on connaît, enfin le paysage culturel municipal. Donc c'est ça l'histoire de ce Cellier. À partir de là, on va relocaliser à l'intérieur dans tous les équipements culturels qui étaient à Sciences Po, enfin dans le bâtiment qui va devenir Sciences Po. Les travaux sont confiés à un cabinet d'architecture de Lille avec un cahier des charges assez précis où les compagnies de théâtre, enfin de spectacles vivants sont consultées. C'était absolument génial, on pouvait faire une liste du Père Noël. À l'époque, je travaillais pour des compagnies et donc on était très très écoutés, donc c'était très très agréable. On savait que ça allait être un lieu qui allait être du sur-mesure. Et à l'arrivée, ça donne un lieu, un centre culturel pluridisciplinaire dédié aux pratiques professionnelles, à la différence de cette maison commune du chemin vert. Et dans ces interlocuteurs, ces acteurs culturels qui vont être accueillis au Cellier, ça va être en fait les compagnies. Alors, Reims, en fait, est un lieu où il y a beaucoup, beaucoup de compagnies de spectacles vivants. On est une bonne quarantaine de compagnies collectives et autres dénominations de structures culturelles. Et dans toutes les disciplines, ce qui évidemment rend ce paysage très dynamique, c'est la proximité de l'Institut international de la marionnette de Charleville. Donc, nous avons des marionnettistes à Reims. Et évidemment, la proximité du CNAC, le Centre National des Arts du Cirque, et nous avons des circassiens à Reims. Donc en fait, on compte à Reims des compagnies de danse, des compagnies de théâtre, du cirque, de la marionnette, ce qui fait une vraie vitalité. Prenons l'exemple d'une compagnie de théâtre, elle est coproduite par la Comédie ou achetée par la Comédie, c'est super, et elle travaille, et elle peut rencontrer son public, les scolaires avec lesquels elle travaille pendant l'année, etc., parce que coproduite par la Comédie. Mais comme ils sont 40... Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, la même compagnie est à la Comédie. Et donc là, je reviens à mon histoire de « il faut aller au bout du geste d'accompagnement de la création ». Donc pour ces compagnies qui ne sont pas supportées autant au moment J par, bon ouais, mais je devrais dire, par les institutions culturelles, le Cellier est là pour que malgré tout, les compagnies puissent présenter dans des très bonnes conditions leur spectacle pour les professionnels, pour le public, pour les écoles avec lesquelles elles travaillent, les lycéens, les je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi.
Radio Primitive vous propose une émission spéciale consacrée à la maison commune du Chemin Vert et au Cellier également. D'ailleurs, Vincent Marcoux nous en a rappelé l'histoire et nous déambulons virtuellement dans ce lieu à ses côtés.
Donc ça, c'est le projet du Cellier. Donc le Cellier, pour finir notre visite virtuelle, donc je disais, il y a 3 étages de cave. Donc en fait, c'est à chaque fois des plateaux quand même de 400 mètres carrés, ce qui n'est pas rien. En fait, c'est des grandes travées. Il y a 3 travées. Je crois qu'on doit être un peu plus de 400 mètres carrés. Mais en fait, il y a 2... Alors, sur ces 3 niveaux, il n'y a qu'un niveau qui se visite, puisque le 3e niveau est vraiment à fleur de nappe phréatique. C'est un peu compliqué. Le 2e niveau est un niveau en fait qui va permettre, à cause aussi de l'humidité, qui va permettre de réguler, en fait, un niveau technique qui va permettre de réguler la température de l'établissement. On est vraiment, je dis pas un établissement intelligent, mais on n'est pas loin de ça quand même. Il y a quand même une conception très éco-sensible, développement durable, etc. Le premier niveau qui était humide au tout début, maintenant est suffisamment sec pour y faire des expositions. Et là, on a 2 travées que l'on visite, puisque la 3e travée, eh ben, c'est le lieu de stockage et les toilettes. Donc, bon, on est sur une travée technique. Donc, voilà, et là, on est vraiment dans l'appréhension de ce qu'est une maison de champagne, une cave de champagne. Donc ça, c'est des lieux, enfin, ça, c'est les espaces d'exposition qui portent le nom d'un peintre de ma génération qui avait été formé à l'École des Beaux-Arts à l'époque, qui s'appelait Giuseppe Nivola. Donc là, on est dans les salles d'exposition. Maintenant, on est au niveau zéro, c'est-à-dire au moment où on ouvre la porte. Alors, on passe la porte du Cellier, non pas par le gros tonneau dont je parlais, mais par la porte d'un ancien pompe funèbre. Parce qu'en fait, après la guerre 14, on a des pompes funèbres qui sont installées là. Et dans les années 80, en fait, à l'étage au-dessus des pompes funèbres, en fait, il y avait une sorte d'embryon de cartonnerie, une espèce de lieu totalement alternatif où on allait écouter du rock et on se s'entassait à 150 là-dedans. S'il y avait eu une allumette intempestive, on aurait été mal. Et puis après, cet espace qui était vraiment un espace un peu... j'ose pas dire clandestin, parce que je pense que beaucoup y sont allés comme moi, mais un truc quand même un peu, voilà, pas tout à fait officiel. C'est devenu un atelier, notamment de ce peintre Giuseppe Nivola. C'était un atelier jusqu'au moment où la ville rachète finalement et cette cave de champagne et le pont Funèbre qui a déménagé à ce moment-là. Donc là, on arrive dans le hall du cellier. Et puis, dans le hall dessert trois salles de spectacle plus un foyer du public. Donc, on va faire un petit tour aussi vers les noms. La salle de spectacle assez classique avec un gradin de 140 places s'appelle Jean-Pierre Miquel. Si vous vous souvenez, Jean-Pierre Miquel, c'est le fondateur du Centre Dramatique National à Reims dans les années fin 70, début 80. Et Jean-Pierre Miquel donc était metteur en scène et a fini sa carrière comme administrateur de la Comédie Française. Ça le fait quand même, ça a un peu la classe. Donc ça, c'est la salle de 140 places, salle Jean-Pierre Miquel. Et puis on a la salle La Môme Moineau. Alors on a cherché des noms d'artistes des deux sexes et dans le plus de disciplines possible pour envoyer à la réalité du cellier. Et toujours des gens qui étaient rémois ou avec une relation forte à Reims comme Jean-Pierre Miquel. Cette Môme Moineau, évidemment, ça sonne un peu comme la Môme Piaf. C'est à la même époque, c'est une espèce de cocotte qui est chanteuse réaliste, n'a pas le talent de Piaf, sinon on aurait gardé son nom dans la postérité. Elle est rémoise et elle finit sa carrière en épousant un magnat du pétrole au Venezuela. Bon, je trouvais quand même que c'était pas mal de faire entrer la chanson française dans cette affaire. Et puis, personnage un peu fantaisiste, quoi, c'est un peu rigolo. Il y a un moment donné, on aurait bien aimé l'appeler Isabella Gianni, qui avait fait ses études à Reims, une partie des études à Reims. Bon, La Môme Moineau, c'est pas mal non plus. Et puis après, il y a une autre salle qui est une salle de danse. Et donc, on l'appelle comment ? La salle Esmeralda. Et là, ça nous permet d'aller associer la danse à notre affaire, mais aussi la littérature, puisqu'en fait, Esmeralda, c'est la gitane de Notre-Dame de Paris. Victor Hugo avait assisté au sacre de Charles X, et s'était rendu notamment à Saint-Rémy, avait rencontré cette gitane, avait rencontré le sonneur de cloche de la cathédrale de Reims, et c'est lui qui va servir de modèle pour Quasimodo. Donc voilà, tout ça, ça nous amusait aussi beaucoup. À ce niveau, on a aussi le foyer des artistes, une grande cuisine équipée pour entretenir le linge, les costumes, etc. Et puis évidemment, les espaces d'accès des corps, puisqu'on est quand même dans un nœud très urbain, donc il faut bien des lieux pour stocker les camions, stocker les projecteurs, etc. Et puis après, je propose qu'on monte. Donc on arrive au premier étage de notre cellier. Là, on est dans les salles d'atelier, les loges et les bureaux techniques. Et donc cet espace s'appelle l'espace Ernest Callas, non pas comme la chanteuse, on n'est pas dans le lyrique, mais comme l'architecte qui en fait a signé la façade avec cette porte et ces fameuses fresques en mosaïque. Et puis il y a un deuxième étage, je vous disais, et alors là ce deuxième étage porte pas de nom précisément d'artiste, mais c'est un étage hautement artistique puisque c'est en fait l'étage qui abrite l'association Nova Villa qui va faire dans pas longtemps son nouveau Mélimôme, son peut-être la 32e édition, je crois, cette année, ou 33, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est l'association qui s'attache à développer beaucoup le travail sur le jeune public à Reims. Et d'ailleurs, Mélimôme, c'est un des grands festivals jeune public en France. Donc voilà, je dis bonjour à mes copains de Nova Villa. Voilà la visite du cellier.
Je passe sur cette information qu'on a préféré une demi-mondaine à Gianni pour revenir sur les itinéraires. On a eu donc la présentation de cet itinéraire de la scène à l'image et également du lieu, le cellier, puisqu'on avait parlé grandement de la maison commune, il était temps de parler du cellier. On a évoqué aussi cette exposition avec le musée du Jeu de Paume. Est-ce que c'est possible de revenir sur pourquoi le musée du Jeu de Paume, musée parisien, se retrouve dans cette affaire rémoise ?
Ben, en fait, ça a à voir avec finalement le goût de Reims pour l'image, qui est un goût assez ancien. C'est une émission pour les vieux et moi, c'est affreux. Non, dans les années 90, plus sérieusement, il y avait un festival que personnellement j'adorais, qui s'appelait le Mai de la photo. Je crois que c'est même plutôt les années 80-90, hein, ça a dû se faire sur deux décennies, peut-être pas pendant 20 ans, mais bon. Et c'était, comme son nom l'indique, au mois de mai, l'occasion de découvrir des photos, des expositions photos de très grande qualité, de grands photographes, un peu partout dans la ville, un peu sur le mode derrière, ce qui a suivi juste derrière des flâneries musicales, ou sur le mode maintenant de Far Away, enfin, c'est-à-dire finalement Ça nous paraît tellement normal à Reims de faire ça, mais c'est pas du tout habituel dans toutes les villes, c'est-à-dire autour d'un projet artistique, se balader dans tous les lieux. Ici, c'est comme ça depuis maintenant très longtemps, et je pense que c'est le milieu de la photo qui a dû ouvrir ce bal-là. Donc il y avait ce goût pour la photo, il y a des associations de photos à Reims assez fortes, et beaucoup de photographes aussi avec qui on travaille. Il y a eu la salle d'attente, par exemple, avec qui on a monté des beaux projets au Cellier, au moment où le Cellier cherchait un peu dans son projet artistique, on va dire. Et donc voilà, c'est assez naturellement finalement qu'on s'est mis à chercher du côté de la photo. Et puis il se trouve que le directeur actuel des affaires culturelles, Stefano Arnaldi, avait des liens avec le jeu de paume. Alors, à quel endroit ? Je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que ça a facilité la relation, la rencontre. Et puis que le jeu de paume, comme tous ces grands musées parisiens, ben, on leur demande quand même d'aller faire un petit tour en province. Et à un moment donné, la culture, n'oublions pas, est pour tous. Hein, et comme le disent nos élus, est partout. Donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, je pense qu'ils sortent déjà. Je crois qu'ils travaillent aussi beaucoup avec Angers, enfin, dans ces coins-là. Je crois que c'est Angers. Donc voilà, assez naturellement, en fait, ils ont répondu OK. Ils ont été séduits par, évidemment, l'endroit. Parce que quand même, c'est pas mal, c'est celle d'expo au Cellier. Donc voilà, donc il y a eu une première exposition qui était en fait une rétrospective en fait sur un photographe hongrois, d'origine hongroise, mais qui a eu des périodes françaises et américaines, etc. Et hongroise, évidemment, c'était assez beau. Il y a eu l'année dernière cette exposition autour de l'image 3.0, c'est-à-dire dans tous ses états et... dans des états surtout très contemporains, très modernes, y compris dans le virtuel, etc. Et puis là, on revient finalement à un travail. Alors là, on n'est pas sur la carrière globale d'un artiste, mais on refocalise sur un photographe et plutôt sur les 10 dernières années de sa carrière. Et là, il faut que je prenne, pour ne pas dire de bêtises, il s'agit de Stéphane Couturier.
Thank you. a life that's made for work.
Cette première partie d'émission est terminée. Direction le gymnase de la maison commune du Chemin Vert. Ce que vous allez entendre a été enregistré le mardi 21 février lors de l'atelier Vie de chaise, un atelier dirigé par le collectif Totterwinkel. Des jeunes participants étaient présents. C'était le deuxième jour d'atelier. Atelier qui se concluait par, le vendredi 24 février, une petite restitution, où la famille des enfants ayant participé était conviée.
Je m'appelle Adèle et je fais partie du collectif Totterwinkel.
Léa, 7 ans.
Je m'appelle Félix et je fais partie du collectif Totterwinkel.
Je m'appelle Nathan, j'ai 9 ans.
Je m'appelle Noé, j'ai 9 ans.
Je m'appelle Cassandra et je suis médiatrice culturelle à la Maison commune du Chemin Vert.
Avec Adèle qui est là et Léonore aussi qui n'est pas ici aujourd'hui, on a créé le collectif en 2019 à Reims, donc on est un collectif de Reims, au Jardin Parallèle, c'est un lieu de création marionnette à Reims. Et on s'est rencontrés avant ça en 2016 à peu près au Conservatoire de Clamart en formation marionnette, donc on est vraiment marionnettiste à la base, on a fait une formation ensemble et on s'est bien entendu et du coup on a commencé à travailler ensemble à partir de là. Et du coup, on a commencé à créer des spectacles ensemble, qui étaient bien sûr nés de notre formation marionnette, mais qui aussi s'inspiraient de danse, de théâtre. On est vraiment des artistes pluridisciplinaires, on aime bien mélanger beaucoup d'art et s'inspirer de plein de la philosophie aussi, de la littérature. On a aujourd'hui plusieurs spectacles qu'on aime bien jouer dans des endroits pas forcément qui sont pas forcément des théâtres. On aime bien jouer dans la rue, on aime bien dans des gymnases aussi. Ce gymnase est magnifique d'ailleurs. On était venu répéter pour la chaise du coup qui est le spectacle autour duquel on fait cet atelier. On était venu répéter ici et c'était vraiment très inspirant comme espace pour jouer la chaise.
On travaille pas mal sur des thématiques qui sont liées au corps, aux objets. Et à la perception, en fait, Totterwinkel, ça veut dire l'angle mort. On s'intéresse beaucoup à l'invisible, à ce qui est caché et qui se trame en coulisses, un peu au, voilà, à ce qui œuvre dans le champ de l'invisible. Et donc on essaye de rendre palpable dans les spectacles. Et on s'intéresse aussi beaucoup au rapport au public. Comment est-ce qu'on convie le public à se réunir, autour de quoi, dans quel but, et ça à la fois dans les créations mais aussi dans les ateliers, en fait. Enfin, du coup,
c'est possible, on a parlé d'une chaise, c'est bien ça, de nous parler d'autres spectacles qui ont pu être proposés, que ce soit sur Reims ou ailleurs, car si vous êtes rencontrés au Jardin Parallèle, on a peut-être déjà idée d'endroits ou de temps où vous avez pu présenter vos créations, mais...
La chaise, du coup, on l'a joué au festival Orbis Pictus l'année dernière, en 2022. Et là, en décembre 2022, on a joué notre dernière création qui s'appelle Die Haut plus que nu. Die Haut, ça veut dire la peau en allemand. Et donc, c'est un spectacle, enfin, c'est une conférence autour de la figure de l'écorché anatomique. C'est une conférence qui se transforme doucement en cabaret burlesque.
Comment le collectif s'est retrouvé à animer des ateliers ? Parce que ce n'est pas la même chose de créer et d'amener des jeunes ou des moins jeunes à créer. C'est quand même un exercice très différent. Comment c'est venu ? Est-ce que c'est une première ? Est-ce qu'il y a, c'est déjà passé des choses avant autour de la création pour le jeune public, la médiation culturelle de façon plus large ?
En tout cas, pour le spectacle La Chaise, c'est un peu les premières fois où on a fait des ateliers autour des spectacles. Et en fait, c'est des choses qu'on nous a proposées. Et donc, nous, on s'est pris au jeu, on s'est dit, bah super, ça va nous permettre. Parce que des fois, dans une création, on n'a pas le temps d'explorer toutes les idées qu'on veut. Et on fait des choix. Comme on dit, une création, je sais plus qui disait ça, que c'est un cimetière à idées. Et du coup, il y a plein d'idées cimetières qui sont mises au cimetière. Et en fait, du coup, bah, dans les ateliers, ça permet de pouvoir essayer des choses, en fait, avec le, bien sûr, en faisant en sorte que ce soit adapté au public avec lequel on travaille, mais c'est des ateliers aussi de création, et il y a une sorte d'émulsion aussi pour nous, parce que c'est des fois des choses qu'on n'a jamais faites, des idées qu'on a et qu'on n'a jamais faites, et du coup, c'est le moment de, à la fois, transmettre des choses de l'ordre de la manipulation, de la danse, mais aussi, du coup, d'essayer des choses créatives.
Donc cette série d'ateliers pour cette semaine, pendant ces vacances scolaires, était proposée à du jeune public, enfin entre 8 et 12 ans, c'est pas si jeune que ça, bien qu'on ait une petite resquilleuse beaucoup plus jeune. Ces ateliers proposés à du jeune public se nomment Vie de chaise. C'est possible aussi de nous en parler, de quoi c'est parti? Est-ce que d'ailleurs ça a un lien avec la création Une chaise, ou est-ce que c'est tout autre chose? Et quelle était l'envie? En plus, vous nous avez parlé de marionnettes au début. Et là, on est plus sur de la manipulation d'objets. Enfin, voilà, comment on articule tout ça?
L'atelier est né vraiment des spectacles La Chaise. On a travaillé ensemble à partir de l'objet chaise pour créer ce spectacle. On essaye, comme disait Adèle, d'essayer des choses qu'on n'a pas essayées pendant la création. Au tout début, on a vraiment pris l'objet chaise et on a... imaginer tirer plein de fils de cet objet, que ce soit l'imagination autour de cet objet, les utilisations de cet objet, ce que ça évoque aussi comme sensation, comme émotion. Et ensuite, du coup, l'idée avec ces ateliers, c'est d'aller plus loin là-dedans et d'essayer de jouer avec cet objet chaise. Et de le faire vivre, en fait, que, tout simplement, comme le dit le titre, Vie de chaise, de faire du théâtre avec, comme du théâtre d'objets, avec ces chaises. Alors, on fait pas du théâtre d'objets pur, mais on fait du théâtre avec l'objet chaise, quoi. Donc, on crée des situations avec les chaises, on les manipule comme des marionnettes. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de leur donner un regard, de leur donner une marche, un son, de créer des personnages avec cet objet. À partir de là, tous ensemble, essayer de construire des scènes, quoi, de faire du théâtre, en fait, avec des objets tout simples que sont les chaises, qui a priori sont faites pour s'asseoir, mais finalement non. On essaie de les détourner, en fait. On détourne l'objet et c'est en le détournant qu'il devient théâtral et intéressant, quoi.
En fait, on s'amuse aussi du quotidien. Enfin, au départ, le point de départ du spectacle, c'était d'essayer de sortir la chaise de son quotidien et du coup de voir comment ça pouvait devenir extra-quotidien et du coup de questionner nos habitudes aussi. Du coup, là, on ne s'assoit presque pas sur les chaises, en fait. L'idée, c'est de mettre en avant leur présence aussi en tant qu'objet, il y a un côté un peu animiste.
Alors, on va demander tout à l'heure aux jeunes participants, jeunes artistes, c'est mieux, hein, ce qu'ils en pensent. Mais quand on vous écoute, il y a beaucoup d'abstraction. Et est-ce que c'est difficile pour les jeunes artistes, le jeune public, de se projeter, de comprendre l'envie derrière? Ou est-ce qu'en fait, finalement, c'est assez naturel?
Ben, en tout cas, on essaie toujours d'aborder ça avec des jeux. En fait, on fait des jeux. Les enfants se prennent au jeu. Enfin, ça, faire vivre un objet, c'est des choses qu'on a tous fait quand on était enfant. Donc, c'est assez naturel. Le but, c'est de comment est-ce qu'on passe d'un jeu d'enfant à un jeu théâtral. C'est ça l'objectif aussi.
On a parlé des jeux. Comment vous construisez donc cette semaine? Ça commence par des jeux. Est-ce que vous faites une présentation d'une partie de votre travail? Comment vous construisez ce cycle d'atelier en réalité?
L'idée, c'est quand même de... On a un objectif, on s'est donné comme objectif, même si le mot est grand, mais de faire un petit spectacle, de l'écrire tous ensemble, en fait. Donc, les parents vont venir pour voir le spectacle, on sera là aussi. Donc, ça va être... l'idée, quand même, toute cette semaine, c'est d'écrire quelque chose. Donc, on n'a rien imposé, on n'impose rien, on n'a rien défini à l'avance de la restitution, en tout cas. Nous, on a juste des thèmes, des thématiques, des mots, des exercices, des jeux, des choses qu'on a envie d'essayer, encore une fois, que nous, on n'a pas essayé, mais qu'on a envie d'essayer artistiquement. Des images, des matières, des situations. Et à partir de là, on va mettre les choses bout à bout et essayer de voir ce qui peut faire sens pour eux, en fait, enfin, pour nous tous ensemble.
Et pour cette restitution, il y a aussi une mise en musique, c'est pareil, comment vous ne savez peut-être pas, là on enregistre le mardi, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout définies encore.
Bah, on travaille avec des musiques préexistantes et on va voir pendant le... En tout cas, on ne va pas faire de création sonore pour la restitution, mais forcément on va utiliser des musiques parce que c'est hyper important, et puis il y a un côté un peu dense aussi. L'idée c'est que on propose plein de jeux aux enfants, plein de jeux de théâtre, de marionnettes, de danse, et ensuite aussi on va voir avec eux ce qu'ils ont envie de montrer et qu'est-ce qui leur plaît et qu'est-ce qu'ils ont envie de montrer aux parents, et du coup à partir de là on va répéter les choses pour que ce soit, il y ait de plus en plus de matière et que ce soit sympa, quoi.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Primitive, émission spéciale à la Maison commune du Chemin Vert, troisième épisode.
Donc, il y a...
Là, je vous explique.
Oui, je vous explique. Il y a une personne qui va fermer les yeux. Donc, fermez les yeux.
Ah,
on n'a pas ramené de bandeau, mais vous pouvez fermer les yeux sans regarder.
Oui.
Et... Donc il y a un aveugle et un accompagnant, d'accord ? Donc il y a une personne qui ferme les yeux et qui va marcher dans l'espace, et la personne qui accompagne, elle va, au départ, elle va peut-être mettre une main sur son épaule et une main dans sa main, sur son poignet, comme elle veut, d'accord ? Et donc la personne qui est aveugle, elle va pouvoir se déplacer, attendez les garçons, elle va pouvoir se déplacer partout où elle veut. Mais la personne qui accompagne, elle s'assure que personne ne va cogner dans une chaise, dans un mur, dans la table. D'accord ? D'accord, ça va ? On fait ça, et ensuite on échangera, et ensuite on continue.
Cassandra, quelle est l'implication de la Maison commune du Chemin Vert, outre le fait de mettre à disposition le gymnaste? Mais quelle est l'implication? Et d'ailleurs, pourquoi une médiatrice reste pendant le temps d'atelier? Je suppose qu'il y a plein de choses, d'acteurs qui s'articulent autour de la mise en place de ces ateliers.
Quelle implication à la Maison commune du Chemin Vert? Effectivement, c'est tout ce qui est mis à disposition du matériel, des salles. C'est un véritable partenariat en fait établi avec les artistes. Comme l'ont expliqué Adèle et Félix, c'est une proposition en fait qu'on leur a faite de dire bon bah le spectacle est intéressant. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à imaginer autour de ce spectacle, autour de leur création et de leur travail à eux, pour monter justement un atelier à destination d'un jeune public. l'objectif de la Maison commune du Chemin Vert, c'est encore une fois de défendre les pratiques artistiques amateurs. Et donc, dans ce sens-là, les enfants qui ne sont pas des acteurs, qui ne sont pas des professionnels, mais des joueurs et peuvent être des artistes en ce sens, restent dans le cadre des pratiques amateurs. Et donc, ça se prête complètement au projet de l'établissement. Et quant à ma présence dans les ateliers, c'est quelque chose qui nous paraît important pour l'équipe et pour moi-même. Il faut savoir que le poste de médiateur culturel à la Maison commune du Chemin Vert se fait grâce à un apprentissage. Alors avant moi, c'était une autre personne. Après moi, il y aura encore quelqu'un d'autre. C'est vraiment une espèce d'héritage qu'on se passe de personne en personne, et je suis là personnellement dans le cadre d'une formation en animation culturelle. Donc ça nous semble important, et moi la première, de pouvoir pleinement vivre des ateliers avec les enfants, d'être au contact du public, d'être au contact des artistes, et en même temps le médiateur culturel ou la médiatrice culturelle est là pour faire le lien entre l'établissement et justement les artistes et ce qui se passe dans les ateliers avec les publics.
Cassandra vient de parler de son rôle de médiatrice. Est-ce que dans la construction, d'ailleurs, il y a eu un jeu de ping-pong entre la maison commune et le collectif ?
Au départ, Vincent, il est venu voir une sortie de résidence de la chaise. Vincent Marcoux, donc le directeur de la maison commune du Chemin Vert. Et ensuite, il m'a proposé les ateliers. On s'est réunis pour en discuter. J'ai fait une proposition. Et ensuite, quand on a choisi la date, on a eu des échanges aussi pour... des formalités administratives, mais aussi dans quel salon on travaille, est-ce qu'on peut récupérer des chaises ici, comment on fait pour avoir du matériel, tout ça. Et oui, forcément, il y a un échange.
Parlons des chaises, un instant. On est à la radio, en l'occurrence, on est entouré de chaises. Nous, on est paradoxalement assis par terre, d'ailleurs. Il n'y en a aucune qui est identique. Elles ont toutes des styles particulièrement différents. Ça aussi, ces chaises, elles jouent un rôle central en fait dans le spectacle, la présentation qui va être proposée vendredi. On les prend au hasard, on va les chercher. Est-ce qu'il y a une réflexion autour de l'objet en amont ou
Le choix des chaises, il est très intéressant parce que du coup, c'est très ludique. Au début, on fait beaucoup de récup quand même. C'est rare quand même qu'on achète des chaises exprès. Soit c'est des chaises qu'on trouve, soit qu'on... c'est comme un coup de cœur, quoi. On la voit dans la rue et du coup, on la récupère ou... C'est beaucoup de récupération, des cadeaux aussi qu'on se fait. Et puis il y a la chaise aussi d'Adèle, qui est utilisée dans le spectacle, qu'on a ramenée aussi. Même si c'est plus un... Elle est carrément devenue un personnage. C'est plus une chaise, quoi. Elle a été transformée, elle a été modifiée. Elle a vraiment, pour nous, une âme, quoi. Et elle a une histoire aussi, cette chaise.
Bon, moi, au départ, je l'ai juste récupérée dans la maison de mon enfance. Et il se trouve après que j'ai appris, donc c'est une chaise de bistrot, que j'ai appris qu'elle appartenait à... je sais plus si c'est le grand-oncle de ma mère ou le grand-oncle de ma grand-mère ou un truc comme ça. En tout cas, c'est un grand-oncle ou un arrière-grand-oncle qui était curé. Voilà, c'est tout. Et elle a une sœur jumelle, au cas où.
Donc nous avons trois jeunes artistes en herbe. Les ateliers ont commencé hier, puisque là on enregistre, on est mardi. Donc ça fait pas très longtemps que vous avez commencé. Est-ce que l'un de vous trois, ou les trois en même temps, veut bien me raconter ce qui s'est passé durant l'après-midi d'hier, de lundi?
On a fait un samouraï. On a appris à jouer au samouraï.
D'accord, et du coup c'est quoi?
Faut faire O, I, A. Au début, quand c'est à toi, tu fais O sur une personne. La personne, elle doit faire I. Et ceux qui sont sur les côtés, ils doivent faire A. Et puis après, quand il y a quelqu'un qui se trompe, il est éliminé. Et c'est les deux qui restent, ils ont gagné. On a pris les chaises et on les a fait trouver un prénom, un bruit, un âge. Et on a fait des petits trucs avec.
C'est une extraterrestre.
C'est une extraterrestre.
Oui, ça c'est ce qu'on a fait.
Une chaise extraterrestre et les autres.
C'est ce qu'on a fait après. Après, on les a déguisés et puis... Après, on a pris d'autres chaises, on les a déguisés et puis du coup, ça a fait des personnages. Alors moi, j'avais un pêcheur,
Oui, Léa, elle avait un extraterrestre avec quatre yeux. Nathan, il avait la Miss France 2020. Et Cassandra, elle avait une patineuse artistique. Après, on a fait le défilé de mode avec nos chaises. En gros, on devait commencer du coin là. Et on devait avancer, mais avec la manière d'avancer dont on leur a donné. Et on devait faire une pause, on s'arrêtait et on allait prendre des photos.
Alors, si j'ai bien suivi, toi, tu avais la chaise Miss France. Ah, comment 2020, pardon. Donc, comment on fait avancer une chaise comme Miss France? Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle est un déhanché terrible, à moi. Enfin, je ne sais pas.
Je la prenais comme ça, là, aux extrémités, là, au... là au niveau des... après, je faisais un peu comme ça. Je la bougeais. Après, on a regardé les photos. Ah oui, la photo de famille, de toutes les chaises ensemble. Et la photo individuelle aussi.
Vous aviez déjà fait des choses qui ressemblent à ça?
Non.
Non. En maternelle, je faisais un peu de théâtre, mais pas du tout avec une chaise.
Pour les projets 2023, j'ai vu que le collectif était déjà annoncé pour le Festival mondial de marionnettes. Alors, c'est pas tout de suite, mais on peut quand même en parler peut-être un petit peu.
C'est Dear Out plus que nu, le spectacle dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a joué au Manège de Reims en décembre dernier, qu'on va jouer là-bas 4 fois. Et c'est super, parce que c'est vraiment un rendez-vous très important pour le théâtre de marionnettes. Et puis c'est un super festival, il y a plein de choses dans la rue, dans des petites salles, dans plein de salles de tailles différentes. C'est vraiment... en fait, il y a tellement de spectacles qu'on peut toujours trouver quelque chose qui nous intéresse, quoi. Donc on a hâte de faire ça. On va se préparer un peu à l'avance quand même, parce que on l'a joué qu'une fois, donc là ça va être le défi, ça va être d'être prêt pour le festival. Heureusement, on va le jouer avant à Strasbourg, dans un festival universitaire qui s'appelle Démonstratif, d'ailleurs, qui est super aussi. Ça c'est en juin, et donc ça va, on aura quand même une date avant. Je peux que vous inviter à venir le voir, quoi. J'espère que ça va être cool, j'espère que ça plaira.
En ce moment, on travaille beaucoup à la diffusion des spectacles qu'on a déjà créés. Et on est aussi en train de commencer une nouvelle création. Et on met aussi en place des projets collectifs, plus art de la rue, création in situ dans l'espace public. Voilà, donc en ce moment, on est pas mal en train de... d'imaginer les projets, d'essayer de les mettre en place tout en cherchant des endroits pour diffuser les spectacles qui sont déjà créés.
Oui. On va refaire
Nous avons laissé les jeunes participants et le collectif Totterwinkle à la recherche artistique. Avant de conclure cette émission, nous retrouvons à nouveau Vincent Marcoux afin qu'il nous présente, qu'il nous tease, l'itinéraire proposé par la Maison commune du Chemin Vert la saison prochaine.
Là, on est en train d'y penser, mais après on peut quand même en parler, parce qu'il n'y a pas de secret de toute façon. En fait, on sera toujours évidemment sur l'idée de 3 rendez-vous, mais je pense qu'on va se décoller un peu du projet artistique et plutôt revenir finalement au projet du service qui est celui que je dirige et qui est le nôtre, j'allais dire, parce que j'aime pas, voilà, je travaille avec beaucoup de monde, sinon j'y arriverai pas. Et donc l'idée, c'est, ça serait que ça sera, je pense, plus de la scène à l'image, mais sans doute d'un lieu culturel à un autre ou une chose comme ça, ou d'un lieu de diffusion. Alors évidemment, il faudra trouver des termes qui s'adresseront plus facilement aux enfants, mais d'un lieu de diffusion, un lieu de fabrication. J'aime bien l'idée de caresser le poil à l'envers. Et l'idée qui se cache derrière tout ça, c'est qu'il y a à la fois cette visite de la Maison commune du chemin vert, mais qu'il y a aussi une visite de la fileuse. Je pense que c'est bien aussi d'expliquer aux enfants que l'œuvre d'art, soit on peut avoir un don. Souvent, on entend ça. Il dessine bien, il a un don, il a le don du dessin. Ouais, pourquoi pas? Moi, je parle plutôt facilement de sensibilité. Et puis après, surtout, il y a du travail et du coup, des endroits pour travailler. Et c'est toujours plutôt pas mal d'aller dans un endroit un peu bizarre. Et toujours dans cette idée de se dire, finalement, une usine, on en fait quoi après? Donc, on peut évidemment la raser hein, et puis mettre un immeuble et c'est pas mal. Et c'est ce qui se passe dans les trois quarts des cas. Mais c'est pas mal non plus de la garder parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a des gens là-dedans qui ont bossé.
Que c'est notre maison aussi, hein, la même usine. <Ouais. rire>
Ben oui, évidemment. Moi, je suis très attaché, enfin, je viens d'un milieu ouvrier, donc quand mon père disait mon usine, il ne voulait pas dire que c'était lui le patron, puisque ce n'était pas lui le patron, mais il y a un lien d'attachement fort. Je sais que, par exemple, au chemin vert, il y a des gens qui ont travaillé dans cette usine de maille qui s'appelait Timware à la fin de sa vie et qui sont très attachés à ça, comme sans doute il y a des gens qui ont travaillé au cellier. Alors, évidemment, on ne va pas garder toutes les usines et puis, enfin, voilà, et puis agrandir les villes à loisir et à un moment donné, il va falloir qu'on se calme. Mais c'est quand même pas mal de recycler et de garder des traces. Je trouve que ça permet à la ville de garder sa mémoire. La fileuse est en ce moment un établissement culturel. Peut-être qu'un jour, ça viendra un parc ou j'en sais rien, ou un immeuble, je ne sais pas ce qui se passera. Mais voilà, je suis assez sensible à ça. Et surtout, ce que j'ai envie, c'est de faire découvrir au travers de l'itinéraire 23-24, porté par notre équipe du service de création, d'abord que c'est un service et pas qu'un établissement. Et puis, voilà, que les enfants voient bah, finalement ce que peuvent devenir des bâtiments, que c'est pas toujours ce qu'on croit. Puis par exemple, sur ce qui m'en a donné l'idée, c'est qu'on va travailler cette année, on a travaillé l'an dernier, on va retravailler cette année dans le cadre de ces itinéraires avec l'école Jean Massé, qui est voisine du quartier Orgeval et de la Fileuse. Donc je me dis, si les gosses font tout le chemin pour venir au chemin vert, c'est bien que nous on fasse le chemin pour aller vers eux. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et puis comme il y a un moment donné, il y a de la pratique, et ben sans doute que la pratique, elle pourrait se faire au cellier, ce qui leur permettrait d'aller aussi dans un autre espace. Et du coup, ça serait rien de fameux là-dedans, mais ça serait le tour de la trinité des trois, le triptyque, exactement, le triptyque du service de création artistique. Quoi. Donc ça m'amuse assez.
C'est la fin de cette émission. Radio Primitive remercie la ville de Reims et la maison commune du Chemin Vert, le collectif Totterwinkel et les enfants de l'atelier Vie de Chaise. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Primitive en podcast dans la rubrique Émission spéciale Radio Primitive et la ville de Reims présente.